question, c'est assez complexe. C'est marqué plusieurs fois dans la Torah, dans Chazal, que le shalom, c'est la chose la plus importante qu'il y ait et qui existe, qu'il doit y avoir. L'exemple frappant, c'est Rashi qui, à la fin de Parashat Noach, dit que lors de la tour de Babel, les Babyloniens, d'accord, ceux qui ont fait la tour de Babel, sont allés se battre contre Dieu. Ils ont créé une tour pour se battre contre Dieu. Et Dieu les a dispersés. Et ils n'ont pas part à Olam Haba. Mais, néanmoins, ils sont restés vivants. Le déluge, ils n'ont pas part à Olam Haba non plus, mais on ne les a pas laissés en vie. Morts par tsunami universel. Terrible. Un tsunami, quand on a vu le tsunami, on a un tout petit peu pensé qu'est-ce que devait être le déluge. C'est en. Or, quel est le péché de la génération du déluge et quel est le péché de la génération des Babyloniens, la tour de Babel? La tour de Babel, ils sont allés se battre contre Dieu. Ce qui est, il semblerait, la chose la plus grave qu'il puisse y avoir. Au déluge, le péché était le vol. Il y a eu plusieurs péchés, des vols sexuels, mais c'est marqué l'onertam dinam, elle à la Hamas, à la Gezel. La signature de la sentence mauvaise de effacer l'humanité du monde a été signée à cause du vol. La relation avec l'autre. Rachid dit, alors qu'est-ce qui est plus important? Tu vois que ceux-là sont allés se battre contre Dieu et sont restés en vie. Ceux-là, c'était des grands croyants peut-être. Mais entre eux, ils ne s'arrangeaient pas, ils veulent du vol, effacé. Dit Rashi, la Mata t'apprend Gadol la Shalom. Grand est le Shalom. Rambam raconte, regarde Korach. Korach, qui était l'oncle de Aaron, faisait partie de la famille la plus illustre du peuple d'Israël, qui croyait un homme intelligent, il avait Ruach HaKodesh, il avait l'Esprit Saint, comme un prophète. Il voyait le futur, il voyait que de lui allaient sortir des grands prophètes, Shmuel, 24 familles de Kohanim. On a des Tehilim, parce qu'il y a quelques descendants de Korach qui ont survécu, des Tehilim qui sont appelés au nom des descendants, Asaph, qui était un descendant de Korach. Il voit que de lui descendent toutes ses descendances. Lui-même est intelligent. Il a vu Dieu au mont Sinaï. Il dit, moi aussi je peux être Kohen Gadol. Pourquoi est-ce que rien que Aaron? Il fait une révolte, une dispute contre Moshe Rabbeinu. Comment se finit l'histoire? Dieu ouvre la terre. Et Korach, sa famille, la femme, les enfants, les bébés, boum! Englouti. Dit à Rambam, regarde combien c'est dangereux la machloket, la dispute. Que même des bébés qui n'ont rien fait à personne, c'est un feu. Le feu vient sur terre et brûle tout. Comme on dit dans la Gemara, dans Baba Metzia, quand le feu il vient, il ne fait plus la différence entre les bonnes graines et les épines. Il brûle tout. La machloket, c'est un feu terrible. Donc, assurément, la dernière bracha de la Amida aussi nous montre, c'est le shalom. Akadosh Baruch Hu lo matza kli marzik tova. Le terme de shalom, tu n'as pas d'ustensile qui reçoit mieux la bracha que le shalom. La bracha, c'est le flux de Dieu. Donc nous sommes tous d'accord, il faut le shalom. Le problème est que ce n'est pas nouveau. Ça fait 3500 ans, 4000 ans que la conscience humaine existe, le motto, la devise numéro un de l'être humain un peu censé, c'est « nous voulons la paix ». Je me souviens, dans ma jeunesse, j'avais vu un documentaire. Alors, on voyait, c'était fin de l'été 39. Deux, trois semaines avant que la Seconde Guerre éclate. Alors, tu as une émission de télévision, enfin un film en tout cas, et tu vois tous les grands chefs d'État, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, hein, « nous voulons la paix ». Prends pas ça d'autre, nous voulons la paix. Hein, nous voulons la paix. Et après, boum, ça fait le boom le plus grand qu'on a reçu depuis longtemps. Le nous voulons la paix, c'est pas nouveau. Quel est. Je me permets de dire ça sur Internet, c'est un peu dangereux, mais tant pis. Je pense que je dis pas un mensonge. Quelle est la religion qui a fait le plus de morts dans l'histoire? La chrétienté. Au nom de « aime ton prochain comme toi-même ». Jésus, il a fait une petite réforme. Il y avait le peuple juif, il y avait les rabbins qui étaient carrés. Il lui dit « écoutez, arrête de mettre l'accent sur les petits, soyons plus. Comme tu me dis maintenant, mettons l'accent un peu plus sur ce qui est bien. Mettons l'accent sur l'amour entre les gens. » Rabbi Akiva a dit « va, tu aimes ton prochain comme toi-même. » C'est clair, gadol batorah. C'est une loi de base de la Torah. Ça veut dire que c'est la base. Et vous, les rabbins, vous mettez l'accent sur des petits détails. Est-ce qu'on peut transporter un chauffage Shabbat qui est éteint, mais branché? Je me souviens que je connaissais une dame qui était non-religieuse. Puis, ça l'intriguait. Alors, elle une fois à un cours. Elle comprenait, elle ne connaissait rien du tout. Elle a vu, ok, des femmes. Elle trouvait tous un peu bizarres. Elle n'avait pas compris que tous portaient une perruque. Après, elle a su. Et puis, elle voit, il y a le rabbin avec une grande barbe, puis il y en a une qui demande, est-ce qu'on a le droit à Yom Tov de bouger un lampadaire branché mais éteint? Alors, elle ne comprend rien d'abord. Elle traduit de l'hébreu. Yom Tov, c'est un jour qui est bon. Est-ce qu'on a le droit à un jour qui est bon? Ben, tous les jours sont bons. Et pourquoi elle demande l'autorisation au rabbin si elle peut bouger son lampadaire chez elle à la maison qui est branché mais éteint? Bon, une bande de fous. Quand tu regardes avec un regard extérieur, ça va. Apprends à être honnête avec ton prochain, apprends à le respecter, apprends à l'aimer, apprends à être joyeux avec lui dans ses joies, être malheureux avec lui dans ses malheurs. Ça, j'entends, c'est un message humaniste. S'il y a une spiritualité dans le monde, c'est bien dans l'acte de don vers l'autre. C'est pas dans ton histoire de lampadaire, reste ton calme. On fait une réforme, très bien. Ça a donné, je ne vais pas maintenant... je ne suis pas là pour condamner et juger. Je ne sais pas qui était l'homme qui a fait cette réforme-là. Mais ce que ça a donné, la religion qui a fait couler le plus de sang dans l'histoire. Je pense qu'aucune autre culture, aucune autre religion, c'est vrai qu'on a beaucoup de religions. Il y a eu des guerres de religion dans le monde. De façon aussi systématique pendant 2000 ans. Tellement se battre. Pour imposer sa religion, les croisades, où on va aller occidentaliser, civiliser, merci, l'Amérique du Sud. Des civilisations extraordinaires là-bas. Aztèque, Toltec, Maya, Inca, civilise, tu crois, on ratatine. En Amérique du Nord, on les parque dans des réserves. En Afrique, on les vend en esclavage. En Asie, jusqu'aujourd'hui, on les... Qui aujourd'hui produit fait de la manufacture en Europe? Ça coûte trop cher, on envoie là-bas en Asie. T'as de la chair à manufacture, bon marché, exploitation, hein?
C'est pas par rapport à la religion, ça c'est déjà par rapport au fait que c'est l'Occident. Parce que déjà, les Romains, ils étaient complètement polythéistes et ils faisaient la même chose.
Ok, Romains, Grecs, il y a eu beaucoup de guerres dans le monde. Mais quand je vois maintenant, personne n'a fait ça au nom de sa religion. La chrétienté, quand on va maintenant, je veux aller maintenant civiliser l'Amérique du Sud, c'est bien au nom de la chrétienté. Les curés, ils étaient avec les soldats. L'Inquisition, les Cosaques, Chmelnytsky, en 1648-1649, avec ses Cosaques, pour christianiser, d'accord, le peuple juif, va tuer 80% des communautés de Russie orientale ont été tuées au nom du Christ en 2 ans. On appelle ça les xérotes en hébreu, xérotes, les décrets de Tartat. Tartat, c'est 400, c'était en calendrier juif, 5408 et 5409. Calendrier non juif, 1648-1649. En deux ans, pas avec les gaz, cyclone B, avec l'épée. 80% des communautés juives décimées. Au nom de la religion, de l'amour. Alors, l'amour, c'est vrai, il le faut, mais c'est un piège. Pourquoi ? L'être humain a en lui des traits de caractère extrêmement mauvais. Il y a une partie en lui qui est divine aussi. Il y a une guerre entre les deux. De façon naturelle, hein, Jean-Jacques Rousseau disait « L'homme naît pur et c'est la société qui va le gâter. » Non du tout, on dit exactement le contraire. L'homme, il naît Yetzer Hara. Qu'à l'âge de 13 ans, il reçoit le Yetzer Hatov, il reçoit le bon penchant. Jusqu'à 13 ans, il n'y a que mauvais penchant. Le Ben Ishraï écrit que si les enfants n'étaient pas mignons, Dieu a fait un grand chesed avec un grand bienfait aux enfants qui sont mignons comme tout. Ils parlent avec une voix mignonne, ils ont une tête mignonne, c'est vrai. Parce que s'ils étaient adultes, on les tuerait. On ne pourrait pas supporter. T'imagines, je rentre à la maison. J'ai faim! On peut mettre ça sur internet, je sais pas. Il m'a pris! Et tu l'as servi avant! Tu l'as servi avant! Regardez! Mon Ravrouta, il a eu raison! C'est moi, toujours lui qui a raison! Le directeur, il m'a mis à la porte! Ça va, un peu de retenue. Un enfant, c'est quoi? C'est le caractère naturel, spontané que nous avons. En Occident, naturel, spontané, c'est l'argument numéro un de vente. Naturel, spontané. C'est naturel, spontané, c'est bien. Tout, le savon est naturel, le pain est naturel, le shampoing est spontané, l'amour est naturel, et le divorce aussi. Parce que spontané, ça veut dire non géré. On a une partie divine qui doit gérer l'animal. Il y a l'animal et il y a la partie divine. Maintenant, tout le monde a une petite partie divine qui lui dit « il faut la paix dans le monde, il faut l'amour ». Ok, mais personne n'a la recette. Dire qu'on veut la paix, ça existe. J'avais une tante, elle est décédée aujourd'hui, enfin, il y a un certain temps, qui était absolument non religieuse, et elle avait des plans pour amener la paix dans le monde. À l'époque, tu sais, des années 60, tout ça, en Inde, c'était très comme ça. Love, peace and love. Et puis un jour, il s'est avéré qu'on était en famille, tout ça, elle est venue, on avait rencontré, le Rav Ben Tzion était présent. Elle a vu parler de tous ses plans. Elle a dit, dis-moi notre imagination. J'ai appris beaucoup de cela. C'est quoi l'imagination? Ça veut dire que des gens plus sérieux que ma tante ont eu des plans d'amener de la paix dans le monde. Prenons le marxisme, le socialisme. C'était un plan, on va créer une société égalitaire. Ça a créé la société la plus totalitaire du monde. Tous les 10 heures de « on va jeter la recette pour arranger les problèmes du monde », d'habitude, ont provoqué les pires catastrophes du monde.